Bonjour tout le monde. Nous revenons donc à notre pénétrante étude du livre de Bereshit. Et nous en sommes arrivés, je crois, au chapitre 1. Et nous avons, la dernière fois, je crois, fait une distinction entre le statique et le dynamique dans la création du monde, n'est-ce pas? Je crois qu'on nous avons déjà étudié la différence entre Yehi et Vayehi aussi. Et je crois que nous avons commencé à aborder le problème du 7e et 8e jour, ou pas? Non. Bon, alors, là, je voudrais revenir. Comment?
Le 7e jour.
Quoi, 7e jour? C'est-à-dire qu'il nous manque le Vayere, Vayiboker, Yomashéhi, c'est ça, d'accord. Bon. Donc, il y a un 7e jour qui n'est pas achevé. Et pour prendre de manière, disons, claire ce que dit la Torah, le 7e jour, c'est l'histoire. C'est le temps de l'histoire. Ça explique bien des choses. Ça explique pourquoi est-ce qu'on peut se promener dans le monde sans avoir connaissance de celui qui a créé le monde. Tout simplement parce qu'il est en Shabbat. Il est dans son retrait. Et donc, il y a quelqu'un qui doit agir à sa place. Qui est ce quelqu'un qui doit agir à la place? Alors, tu dis, c'est nous. Am Israël. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances?
Vous?
Est-ce que moi je suis une preuve? Non, pour une raison très simple. C'est que pour savoir ce que pense la Torah de quelque chose, il faut lire la Torah. Donc nous avons comme projet, pour répondre à cette question, de lire la Torah. Voilà, c'est tout simple. Bon. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, nous allons devoir faire un petit saut en arrière et revenir dans le chapitre Aleph, chapitre 1, au verset Kaf Dalet. Au verset Kaf Dalet. Ici une grave erreur, ils ont mis café. Kaf Dalet. Donc Vayomer Elohim. Vous vous rappelez qu'il y a toujours dans l'ordre de la création ce qu'on appelle le projet et ce qu'on appelle la réalisation. C'est pas toujours la même chose. En fait, ce n'est jamais la même chose. Il y a toujours un écart entre le projet, entre l'idéal et la réalité concrète. Alors nous allons étudier ici le verset Kaf Dalet qui est un verset de projet. Vayomer Elohim. Elohim dit. Totse haaretz. Que la terre produise. C'est quoi la terre ici? Ça veut dire la nature. C'est un terme pour dire la nature. Et donc, il y a ici quelque chose qu'on nous demande, enfin, qu'on demande à la nature de produire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a parmi vous des élèves qui n'ont pas de livre. Je trouve ça fort navrant, parce que l'absence de livre fait que le cours est beaucoup moins bien compris. C'est-à-dire, un cours avec livre ou sans livre, la différence, c'est 5 fois la différence. Alors, ce que je vous propose, c'est de trouver des livres de Bereshit. Il y en a ici un paquet énorme. Voilà, il y en a un. Vous en avez là? Il y a encore un. Voilà. Il y a encore un. C'est tellement mieux quand on a le livre. Vous comprenez la différence? Ah, il y a encore un vérifié. Voilà, très bien, là. Et encore un. Et encore un.
Si, si, j'ai.
Et encore un. Voilà.
Le numéro, c'est.
Voilà. Ah, je suis jeune. Il est également recommandé que la munition de livres se fasse avant que le cours ne commence. Ça permet de gagner du temps. Donc je reviens ici au chapitre Aleph, au verset Kaf Dalet. Vayomer Elohim totse haaretz. Elohim dit que la terre produise. Chapitre Aleph, verset Kaf Dalet. Est-ce si difficile que ça de trouver le verset? Je pense que toutes les indications nécessaires ont été transmises. Il s'agit du chapitre Aleph et du verset Kaf Dalet, n'est-ce pas? Bon, alors que dit ici la Torah? Vayomer Elohim totse haaretz. Elohim dit que la terre produise. Qu'est-ce qu'elle doit produire? Là, nous allons faire une liste, d'accord? Petite 1. Premièrement, Nefesh Chaya Lemina. Deuxièmement, Behema. Troisièmement, Varemes. Quatrièmement, Vechaito Eretz Lemina. Donc, je demande ici un chiffre. Combien de choses doivent sortir de la terre?
Deux seuls.
Hein? J'ai rien compris. 4 ou 5? Je n'ai pas compris.
4.
D'après quoi?
D'après la lecture.
D'après la Torah. C'est-à-dire, pour savoir ce que dit la Torah, nous revenons à notre principe fondamental, il faut lire la Torah. La Torah nous a dit 4 choses, donc il faut que la terre produise 4 choses, qui sont, à savoir, Nefesh Chaya, Behema, Remes, Chaito Eretz. Jusque-là, vous suivez? Hein? Ces quatre termes. Nefesh Chaya, ça veut dire une âme vivante. Behema, ça veut dire un animal. Remes, ça veut dire un reptile. Chaito Eret, ça veut dire des bêtes. Tout ça selon leurs espèces. D'accord? Vayehi Chen, il fut ainsi. Ça veut dire que ça a marché ou pas? Ça veut dire que ça n'a pas marché. Oui, parce que le mot Vayehi Chen, il en fut ainsi. Ça veut dire que ça n'a pas été la même chose. D'accord? Comme je dis, ça c'est comme, par exemple, je t'amène, je sais pas, de la poudre de cacao, je dis, c'est comme du chocolat. C'est pas du chocolat. D'accord? Si je dis, voilà, ça, c'est comme des roses. Oui, mais c'est des marguerites. Mais c'est comme des roses. Alors, c'est pas des roses. D'accord? Quand la Torah dit, ça a été comme ça, ça veut dire que ça n'a pas été ce que c'était prévu. Il fut ainsi, oui, voyez. Ainsi, non, c'est peu. Non, justement pas. Ainsi, ça veut dire approximativement cela. Voyons maintenant ce que dit le verset Kafé. Tout ça, pour l'instant, c'était le projet. Maintenant, on va voir ce qui a été effectivement réalisé. Vayas Elohim, et Elohim fi. Alors là, je vais compter. Et hayat aretz limina, vet abehema limina, vet kol remes adama liminehu. Il y en a combien? Combien tu dis? Je vais recompter. Je vais compter avec vous. Vaya Elohim, Elohim fi, et hayat aretz limina, ça c'est un. Deuxièmement, vet abehema limina, deux. Troisièmement, vet kol remes adama liminehu. Ça fait combien? 3. Est-ce que vous, certains parmi vous ont certainement fait des études de mathématiques assez développées, quelle est la différence entre 4 et 3? 1. Je suis extrêmement, ébloui par vos connaissances. Donc, il y a dans le projet 4, dans la réalité 3. Il y en a donc un qui manque. C'est quoi qui manque? Le Nefesh Chaya. C'est-à-dire, le Nefesh Chaya n'a pas été suscité par la nature. Ça manque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le projet divin que la nature ne peut pas produire et qui s'appelle Nefesh Chaya. C'est quoi ce Nefesh Chaya que la nature ne peut pas produire? Alors, pour le savoir, vous allez faire quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez passer au chapitre Bet, au verset Zayin. Maintenant que vous avez des livres, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes bien obligé donc d'ouvrir le livre au chapitre Bet, au verset Zayin. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina adama. L'Éternel Dieu façonna l'homme poussière du sol. Vayipar be'apav nishmat chayim. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Vayi Adam, le Nefesh Chaya, et l'homme devint une âme vivante, un Nefesh Chaya. Donc le Nefesh Chaya que la nature n'a pas pu produire, c'est l'homme. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas dire tout simplement Adam? Pourquoi est-ce que la Torah a employé, dans le verset Kavdalet que nous avons vu plus tôt, pourquoi est-ce que la Torah a employé une expression rarissime, Nefesh Chaya, au lieu de dire Adam, qui veut dire également un homme? C'est ça. Ça veut donc dire que ce que la nature n'a pas pu produire, ce n'est pas l'homme, c'est la partie Nefesh Chaya qu'il y a dans l'homme. C'est-à-dire toute la partie biologique, elle est explicable par l'évolution biologique. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Quelque chose ne va pas? Quoi? Bon, c'est pas grave. Bon. Il y a la partie biologique de l'être humain qui, elle, peut venir de la nature, et la nature sait le faire, l'évolution darwinienne en parle. Ce que la nature n'arrive pas à créer, c'est l'élément nefesh raya qu'il y a dans l'homme, qui lui ne peut pas être naturel. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le nefesh raya ne peut pas être produit par la nature ? C'est quoi d'abord le nefesh raya qu'il y a en l'homme ? Hein ? Vivante, oui, mais c'est. Oui, mais c'est quoi ce souffle ? La neshama, ça veut dire quoi ? C'est quoi la capacité ? C'est quoi la capacité ? La conscience ? Mais est-ce que les chats n'ont pas de conscience ?
Non, mais ils n'ont pas de conscience.
Ils n'ont pas de conscience, quoi ? Un chat ne sait pas qu'il est un chat ?
Les chats, les esclaves. La parole ?
Je pense que c'est la liberté. C'est-à-dire, il y a dans l'homme quelque chose qui ne vient pas de la nature, c'est la capacité de choisir, le libre arbitre. La bihira chofshit, on dit en hébreu. Et c'est pourquoi ça ne peut pas venir de la nature, parce que la nature, c'est des lois. La nature, c'est des lois immuables, c'est ce qu'on appelle du déterminisme. Et donc, par définition, la nature ne sait pas produire de la liberté, elle n'est pas libre. Donc elle ne peut pas produire la liberté. Donc ça doit venir de l'extérieur, et c'est le fruit d'un souffle divin qu'on appelle, en hébreu classique, la neshama, ou en français l'âme. C'est-à-dire quelque chose qui vient d'extérieur de la nature et qui nous donne cette capacité de dominer la nature. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que la nature a échoué à créer le nefesh raya ? Parce que la nature ne peut pas donner quelque chose qui est plus fort qu'elle-même. Avez-vous bien compris ? D'accord ? Donc ça ne peut pas marcher. Ah. Bon. Mais à qui est-ce que Akadosh Baruch Hu avait demandé de susciter l'homme ? Vous vous rappelez au verset Kaf Dalet ? La terre, n'est-ce pas ? La nature, Totse Haaretz. Regardez au verset Kaf Vav, réaction après l'échec. D'ailleurs, soit dit en passant, au verset Kaf, ça finit par Vayar Elohim Kitov. Et Dieu a vu que c'était quand même bien. C'est pas mal. C'est vrai que c'est insuffisant, mais c'est bien quand même. Et au verset Kaf Vav intervient donc la réaction. Une fois la nature ayant déçu, que dit Akadosh Baruch Hu, Vayomer Elohim, puisque c'est comme ça, faisons l'homme. Non, c'est Adam. C'est-à-dire, ce que la terre aurait dû faire, elle ne l'a pas fait. Alors faisons l'homme.
C'est la terre qui aurait dû faire ça.
Bah, c'est ce qui est, si je me réfère au verset Kaf Dalet, oui.
Mais est-ce qu'elle aurait eu la possibilité
Est-ce que c'est normal de demander à la terre quelque chose qu'elle ne peut pas faire ?
Peut-être qu'elle en aurait eu la possibilité et qu'à ce moment-là, elle ne l'a pas fait.
C'est possible. Peut-être qu'elle était douée de libre arbitre à ce moment-là. C'est pas impossible. Ou bien que ça veut dire que viendra un jour, elle saura le faire. Mais pour l'instant, elle ne le fait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un divorce entre la nature et la morale. Oui ?
Donc ça se fait que Dieu il dit que c'est bon, c'est bien, alors qu'au départ, c'était pas le plan.
C'est imparfait. Mais l'imparfait, ça ne veut pas dire que c'est pas bien.
Même si au départ, les autres créations, il avait dit que c'était bien. Et donc c'était quand même parfait ou c'était imparfait ?
C'est toujours imparfait. C'est toujours imparfait. La création, on a vu dans le récit de la création, elle est toujours imparfaite. Elle est toujours en désaccord avec le projet. D'accord ? Maintenant, il y a une raison à ça. Dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, il doit y avoir l'échec. C'est ce qu'on appelle en français un échec programmé. Si je programme de faire un échec, donc si j'ai échoué, c'est une réussite. Tandis que si j'ai programmé un échec et qu'il n'y a pas eu d'échec, ça c'est un échec. D'accord ? D'accord ? Donc c'est-à-dire que la réussite est un échec et que l'échec est une réussite. Bon alors, donc revenons à nos moutons. Vayomer Elohim naase Adam. Et alors Elohim dit, nous allons faire l'homme. Maintenant, faisons l'homme ou nous allons faire l'homme, c'est un singulier ou un pluriel ? C'est un pluriel. Dieu est unique. Alors, comment se fait-il qu'il dit faisons ?
Il parle à la terre aussi.
Il parle à la terre aussi.
C'est-à-dire nous... c'est l'armée, c'est Dieu et ses armées. Non,
Dieu et ses armées. Mais les armées, elles n'étaient pas là jusqu'à présent. Oui. Il se parle à lui-même. Dans ce cas-là, il doit se parler au singulier.
Non, il peut parler lui à la terre.
Il est singulier, lui. Hein ?
Pourquoi il peut se parler au pluriel ?
Alors, il merci. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est unique se parlerait au pluriel ? Il se parlerait au sein de Dieu.
Parce qu'à partir du moment où il commence à créer, peut-être qu'il englobe le temps.
Donc il y a autre chose que lui.
Il
n'y a que lui, tu as dit qu'il englobe autre chose que lui. Dans ce cas-là, il y a plusieurs. Donc il y a plusieurs.
Il y a plusieurs parts, il n'y a pas plusieurs.
Plusieurs parts de l'unité, c'est contradictoire. Dans l'unité, il n'y a pas des parties.
Il y a plusieurs acteurs de la création de l'homme.
Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas que Dieu.
Il y a la terre.
Il y a des sous-ensembles.
Non,
attends, c'est très important ce que tu dis là.
Une seconde.
Je veux faire une remarque sur ce que tu dis, parce que tu n'as pas l'air de comprendre la gravité de tes affirmations.
Ce qui est aggravé. Bah,
non, mais justement, je suis là pour enseigner.
Bien sûr.
D'accord, très bien. Alors, je vais t'expliquer. L'unité, par définition, n'est pas un ensemble. Un ensemble, c'est déjà la multiplicité. Si Dieu est un, donc il n'a pas de partie. Il ne se subdivise pas. Donc ça veut dire qu'on est extérieur à lui.
Si
on est interne à lui, c'est de l'idolâtrie. Ça voudrait donc dire que nous sommes des dieux. Puisque si tu dis que l'homme est une partie de Dieu, ou que tout ce qu'il y a ici sont des parties de Dieu, donc il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas de sacrifice ou que je ne m'adresse pas à moi-même des prières ou à toi-même. D'accord ? Si tu dis que nous sommes des parties de Dieu, donc nous sommes des.
On n'est pas créateur, on est créateur, mais pas à son niveau.
Une seconde. Donc est-ce que nous sommes lui ou nous ne sommes pas lui ?
On fait part de
lui, donc nous sommes lui. Nous sommes lui ou pas lui ? Si tu dis que nous sommes lui, donc nous sommes des dieux. Si nous ne sommes pas lui, nous sommes des créatures. Et je voudrais rappeler quelque chose de très important qu'on oublie souvent. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que d'après le judaïsme, le monde est créé. N'est-ce pas ? Si d'après le judaïsme, le monde est créé, ça veut dire que le monde, c'est pas Dieu. C'est très net. Ça veut dire qu'il y a le créateur et la créature. Alors par des influences de chassidisme, alors on comprend mal certaines phrases zohariques, et alors on s'imagine que la création c'est Dieu. Or ça c'est très grave parce que ça amène au panthéisme, à l'idolâtrie. Un grand principe de la Torah, c'est que nous ne sommes pas à Kadosh Baruch Hu, et que c'est la raison pour laquelle on ne peut adresser un culte qu'à lui. Donc nous ne sommes pas des morceaux de divinité, nous ne sommes pas des pulvérisations du divin. Tout ça, ça se trouve dans des mythologies extérieures au judaïsme. D'après le judaïsme, nous ne sommes pas Dieu. C'est important de savoir ça.
Oui, mais le nom Elohim, il est au pluriel.
Et alors ?
Donc c'est normal.
Oui, mais le verbe n'est pas au pluriel. Il n'y a pas écrit Vayomru Elohim.
Non, ah oui.
Il y a écrit Vayomer, c'est un singulier.
Et il a dit.
D'accord, c'est un singulier.
Ah, peut-être que c'est pas. Hachem, il donne l'ordre à d'autres de faire le.
Donc il donne l'ordre à d'autres.
Oui.
Alors pourquoi il écrit
Naasé ?
Donc il devrait dire faites.
Assou
Adam. Donc il y a une participation entre Akadosh Baruch Hu et quelqu'un qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Alors qui est le participant ?
Les anges. La terre, les anges.
Les anges. Alors tu supposes ici les anges. Une seconde, j'ai compris. Tu as dit les anges, après tu as dit en hébreu les malachim, j'ai compris que c'était le même mot. Le problème, est-ce que les anges jusqu'à présent. Est-ce que les anges jusqu'à présent étaient mentionnés ?
Non.
Donc ça ne peut pas être les anges. D'accord ? Donc ça peut être quelqu'un d'autre. La création tout entière. Alors ça, c'est effectivement le Zohar dit comme ça. Quand Dieu dit nous allons faire l'homme, c'est Dieu et le monde entier qui vont faire l'homme. D'accord ? Mais c'est déjà quasi mystique. Le problème, c'est que dans les versets juste auparavant, c'est pas écrit comme ça. C'est pas impossible ce que tu dis là. Mais rappelons-nous quelque chose de tout bête, hein. Dieu a dit à la terre de faire l'homme. Elle n'a pas réussi toute seule. Que dit Akadosh Baruch Hu ? Nous allons faire. C'est-à-dire quoi, nous ? Moi et la terre. D'accord ? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le Naasé signifie ici moi et la terre qui n'a pas réussi à faire toute seule l'homme, nous allons le faire ensemble. D'accord ? Et donc maintenant, rappelez-vous, regardez à nouveau au chapitre Bet verset Zayin. Je sais que l'effort musculaire que ça vous demande est énorme, mais passez au chapitre Bet verset Zayin, et c'est effectivement ce qui se passe. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina adama, c'est-à-dire Dieu façonne ou forme l'homme à partir de la poussière de la terre, et il insuffle un souffle de vie. Donc il y a ici une participation entre un élément naturel et un élément surnaturel. Donc le Naasé, ça veut dire une collaboration entre Akadosh Baruch Hu et sa créature.
C'est quoi la différence entre Eretz et Adama ?
La différence entre Eretz et Adama.
Parce que là-bas on a Eretz, maintenant on a Adama.
Oui, effectivement. Eretz, ça veut dire l'ensemble de la création, tandis que Adama, ça veut dire le sol.
Donc
qu'il ne s'est pas servi de toute la création, il s'est servi seulement d'une partie de la création pour créer l'homme.
La surface.
Il semblerait, effectivement.
Donc c'est incomplet, encore une fois.
Oui, c'est incomplet, effectivement. Bon, on y arrivera. En tout cas, donc, il y a ici une participation de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu dans la création. Cette participation, je reviens ici au chapitre Aleph, au verset Kafvav. C'est très troublant, tous ces passages comme ça, en avant, en arrière, mais il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Oui. Alors regardez au chapitre Aleph, au verset Kafvav. La Torah dit, « Vayomer Elohim na'aseh Adam ». Le verbe employé par Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ? Nous ferons, na'aseh. Il y a une différence entre le verbe « bara » et le verbe « asa ». Le verbe « bara » signifie un commencement de formation. Tandis que le verbe « asa » signifie quelque chose d'achevé. Par exemple, à propos de la captive, la Torah nous dit « ve'aseta et tsipornea », elle arrangera ses ongles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Il y a une question que tu lui poses, j'ai vu. Asa, tu peux la poser à moi. Oui, là, ça, là, ça. Ouais. Tu peux très bien le demander à moi, c'est très bien, je suis là pour ça. Donc, Dieu a dit, donc, na'ase, nous allons faire. C'est-à-dire un homme complet. L'homme doit être complètement achevé. Est-ce que même ça, il l'a fait ? La réponse est non. Regardez au verset Kafzaïn. Quel est le verbe employé au verset Kafzaïn ? Vayivra Elohim et Adam. Et Elohim a créé l'homme, mais il ne l'a pas achevé. Il l'a laissé incomplet. C'est normal. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un travail de collaboration, chacun fait sa moitié. Donc, Akadosh Baruch Hu fait la moitié, c'est bara. La terre fait sa moitié, c'est aussi bara. Bara plus bara égale à ça. D'accord ? Vous avez compris ? C'est-à-dire, si chacun fait la moitié, ça fait deux moitiés, ça fait un entier. Et donc, en principe, Akadosh Baruch Hu a donné sa moitié, n'est-ce pas ? La moitié du travail, va Yivra Elohim et Adam Betsalmo, il l'a créé à son image. C'est donc le souffle divin dont il est question dans le chapitre Bet au verset Zayin, n'est-ce pas ? Ah, pourquoi est-ce que deux fois on raconte la création du monde ? Ça, quand on arrivera au Perek Bet, on le saura, peut-être, en lisant la Torah. En tout cas, donc, au verset Kaf Zayin, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait la moitié du travail. Qu'est-ce qu'il en est de l'autre moitié ? C'est à qui de le faire ? À la terre. Est-ce qu'elle l'a fait ?
Non.
Il n'y a pas écrit, n'est-ce pas ? Conclusion, l'homme n'a pas été fini. Alors regardez tout de suite au verset Lamed Aleph. Vayar Elohim, Lamed Aleph, n'est-ce pas ? Vayar Elohim, chapitre, verset 31. Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Donc tout ce qu'il avait fait, ça ne comprend pas l'homme. Veinet tov meod, il a vu que c'était très bien. Donc tout est très bien, sauf l'homme. Vayer et Vayiboker Yomashishi, il fut soir, il fut matin, sixième jour. Jour le sixième. Je ne sais pas. Vayer Hulu Hashamaim Ve'aretz. Et alors ? Oui, quoi est-ce qu'il y a ?
Je croyais quand même qu'il y avait quelques défauts dans le monde, comme le fait que l'arbre, les causes du fruit n'a pas la même.
Oui, c'est vrai.
Donc pourquoi est-ce qu'il a créé toute la nature, etc. Et il dit quand même que c'est très bien.
C'est très bien, oui. C'est très bien parce que ça correspond finalement au projet. Oui. Vayichulu Hashamayim Ve'aretz, et alors furent achevés le ciel et la terre, Vechol Tsevaam et toutes leurs armées. Vayichal Elohim Bayom Hashiviyim Melachto Asher Asa. Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait fait. Alors vous avez vu le verbe employé Asa. Très bien. Vayishbod Bayom Hashiviyim Mikol Melachto Asher Asa. Il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. À nouveau le verbe employé Asa. Asa, ça fait comme la Asot, hein. C'est la même chose. Vaivarer Elohim et Yom HaShivi'i, et Dieu bénit le septième jour, Vaikedeshoto, il le sanctifia, Kivo Shavat Mikol Melarto, car il avait cessé toute son œuvre, Asher Bara, qu'il avait créé. C'est-à-dire qu'il a arrêté son travail au milieu, il a laissé en chantier, Asher Bara Elohim, que Dieu avait créé, la Asot pour faire, c'est-à-dire pour achever. Donc il y a une partie de la création qui n'est pas achevée, et qui reste à achever. Alors, maintenant, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de l'homme. Conclusion, pendant le septième jour, celui qui doit achever la création, c'est l'homme. D'accord ?
Il doit s'achever lui-même.
Il doit s'achever lui-même. C'est tout un travail à faire. Donc, ça répond à la question que je t'ai posée tout à l'heure. D'où est-ce que tu as tiré que c'est l'homme qui doit s'achever ? C'est très simple. La comparaison entre les versets Kaf Dalet, Kaf He, Kaf Vav et Kaf Zain nous prouve qu'il y a une partie de la création qui n'est pas achevée, c'est l'homme, et donc il a le septième jour pour le faire. Le septième jour, c'est-à-dire le temps de l'histoire.
C'est à quoi l'achever l'homme ? Pour arriver à quoi ?
Ah, pour arriver à quoi ? On va bientôt arriver à la réponse à cette question quand nous allons un peu mieux étudier le deuxième chapitre. Oui ?
Pourquoi c'est l'homme qui doit faire son
travail ? Ben, tout simplement parce que personne ne l'a fait à sa place. La nature n'a pas fait son travail. C'est-à-dire, par exemple, oui, mais elle n'a pas fait. Il y a aussi un problème. Je vais dire une chose toute simple. Vous savez, par exemple, que il y a chez les hommes, tu veux dire quelque chose ? Il y a chez les hommes quelque chose de surprenant. L'homme, du point de vue de la nature, est incomplet. Par exemple, les singes, ils ont une fourrure. Donc, ils n'ont pas besoin de cravate. N'est-ce pas ? Or, les hommes n'ont pas de fourrure, donc ils ont besoin d'une cravate. C'est-à-dire, il y a quelque chose de surprenant chez les hommes. C'est vrai qu'il y a quelque chose à ajouter à la nature. Nous construisons des maisons, nous avons des voitures. Nous employons la technologie. C'est comme si la nature était insuffisante. Tandis que chez les autres animaux, aucun animal ne porte de vêtements, à moins d'être livré à une concierge cruelle qui lui a fait un petit chandail parce que c'est un caniche qu'on a rasé. Mais à part ça, les animaux n'ont pas de vêtements. D'accord ? Mais l'homme, à l'état naturel, est en danger. La créature la plus faible. Il y a d'ailleurs, du point de vue évolutionniste, la question se pose, comment se fait-il que les hommes n'ont pas de fourrure ? Vous savez comment est-ce qu'on explique ça dans l'évolution darwinienne ? C'est très simple. Vous savez qu'il y a un stade dans l'embryon du singe où il n'a pas de fourrure. La fourrure chez le singe apparaît à la fin de la grossesse. Et l'homme, d'un point de vue évolutionniste, a investi énormément dans la boîte crânienne pour développer un plus grand cerveau. Et ça a été au détriment de la fourrure. C'est-à-dire que la fourrure a dû apparaître, mais l'homme sort trop tôt du ventre de sa mère. Et donc, il n'a pas le temps de faire sa fourrure. Ça veut donc dire que l'homme, c'est un singe débile. C'est-à-dire c'est un singe qui n'a pas réussi à être complet d'un point de vue simiesque, singiesque, quoi, singien. Donc, c'est-à-dire que... alors, on le complète avec le cerveau. Le cerveau nous permet de compléter ce que la nature ne nous donne pas. Mais nous sommes incomplets. Il y a, à ce propos, un livre, un roman, comme ça, écrit par un certain Vercors, dans les années 50. Vous avez entendu parler de Vercors ? C'est un écrivain français. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Les animaux dénaturés ». Alors, sans rentrer dans tout le détail, le sujet finalement du livre, c'est de définir juridiquement qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il n'y a pas de définition dans la loi de qu'est-ce que c'est qu'un homme. Alors se pose un problème, on a trouvé une sorte de population dans une île très éloignée du Pacifique et on se demande si ce sont des hommes ou des animaux. D'accord ? Alors ils font le feu, mais enfin certains ne font pas le feu. Enfin, il y a peut-être problème. Est-ce qu'ils sont définis comme des hommes ou pas comme des hommes ? Alors il y a tout un débat juridique qui embrase la planète, ça entraîne des tas de choses. Et là, finalement, la conclusion, c'est que la définition de l'homme, c'est l'animal qui porte un vêtement. Or, il n'y a pas de société humaine sur la Terre tout entière dans laquelle il n'y a pas de vêtements. Comme par exemple un fil autour du cou. D'accord ? C'est pas forcément cacher la nudité. Ça peut être simplement ajouter quelque chose à la nature ou une peinture. D'accord ? Il se met de la peinture là. C'est donc plus un animal, c'est déjà un homme. C'est pour ça que l'homme est un animal dénaturé. Voilà. D'accord ? Des définitions intéressantes. Or, c'est vrai, d'ailleurs, on voit d'ailleurs que ce sentiment que l'homme doit se transformer est très fort, parce que si vous voyez par exemple l'évolution des animaux, il y a de temps en temps, une fois par très longtemps, par de nombreuses années, vous avez ce qu'on appelle une mutation. Donc il est possible que les chats d'aujourd'hui et les chats momifiés dans les pyramides ne disent pas miaou avec le même accent. Par exemple, si vous ouvrez par exemple une momie de chat, vieille de plusieurs milliers d'années, vous allez probablement entendre miaou en hiéroglyphe. Alors, c'est un petit peu différent du miaou actuel. Mais ce n'est pas profondément différent. Tandis que si vous prenez un homme d'aujourd'hui et un homme d'il y a 100 ans, ce n'est plus le même homme. C'est une autre mentalité. C'est-à-dire qu'il y a une évolution supplémentaire à la nature, c'est l'évolution culturelle. Et ça se traduit entre autres par la mode, le fait que les hommes changent de vêtements. D'accord ? Et c'est encore plus fort chez les femmes. Une femme qui a une penderie pleine de vêtements, qu'est-ce qu'elle dira ? Je n'ai rien à me mettre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le sentiment que l'homme n'est pas encore achevé est encore plus fort chez l'être féminin que chez l'être masculin. D'accord ? Il y a des raisons à cela, on verra dans le chapitre guillemets, on comprendra pourquoi. D'accord ? Mais
Du point de vue de la Torah, on peut dire que l'homme c'est un animal qui n'est pas achevé ?
Je ne sais pas si du point de vue de la Torah, pas du point de vue de la Torah, on voit que c'est dans la réalité. D'ailleurs, on voit que la Torah aussi le dit, puisqu'elle dit que l'homme n'a pas été achevé. Et donc il reste à compléter. Comment ? C'est aussi un animal. C'est-à-dire, du point de vue animal, nous sommes très imparfaits. C'est-à-dire, du point de vue de Tselem Elohim, du point de vue de l'image de Dieu, l'âme, c'est parfait. Akadosh Baruch Hu a bien fait son travail. Mais du point de vue de la nature, le travail est incomplet. Donc, il y a quelque chose à achever.
Après, on travaille de manière spirituelle ici et pas de manière animale.
On travaille de deux manières. C'est-à-dire, nous avons un travail matériel et un travail spirituel sur cette terre. Le problème, savoir en quoi consiste exactement ce travail, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Oui. Ah, ça, j'ai dit que ça, c'est ce que j'ai dit, que lorsque nous arriverons au chapitre Gimel, nous trouverons une réponse éventuellement à ça. Or, nous sommes dans le chapitre Bet. Bet n'est pas Gimel. D'accord ? Je crois l'avoir déjà assez bien dit. Bon, et donc, au chapitre Bet, au verset Gimel. À ne pas confondre avec le chapitre Gimel. Il y a le chapitre Gimel et le verset Gimel, c'est pas la même chose. Donc je reprends ici. Vayevarech Elohim et Yom HaShivi'i. Dieu bénit le septième jour. Le terme de bénédiction apparaît ici pour la troisième fois. N'est-ce pas ? Donc c'est pas nouveau dans la création du monde. Donc c'est pas particulier. Ce n'est pas particulier au septième jour. Vayevarech Elohim. Donc, mais qu'est-ce qui est particulier ? Vayekadesh Oto. Et il le sanctifia. C'est la première fois que ce verbe apparaît dans la Torah. Il le sanctifia. Donc il semblerait que la sainteté, Kedusha, du verbe Kadosh, appartienne à l'enjeu du septième jour. Mais ça signifie quoi exactement ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est une des possibilités, effectivement. C'est-à-dire le mot Kadosh. Oui, c'est une des possibilités du terme Kadosh. Soit dit en passant, tu amènes ça de la Gemara, n'est-ce pas ? Dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin, quand un homme dit à une femme, Areat me kudeshetli, tu m'es sanctifié, alors la Gemara dit, ça veut dire qu'elle est interdite au reste du monde, n'est-ce pas ? Kehegdesh, comme quelque chose de sanctifié. Mais les Tosfot là-bas font une petite remarque. Ils disent que le mot Mekudeshet là-bas, le véritable sens de Mekudeshet, ça veut dire disposé à moi, c'est-à-dire prédisposé à moi. C'est comme qu'on dit en français consacré. C'est pas ?
Donc c'est
la différence. C'est pas origine. La conséquence de la sainteté, c'est la différenciation. Mais c'est pas la définition de la sainteté encore. Oui.
Si c'était la différenciation, oui. C'est un pléonasme quand on dit
Kodesh. Oui, si, effectivement. Si Kodesh, ça veut dire différenciation, donc Amavdi ben Kodesh Lechol, ça serait un pléonasme.
Kodesh.
Oui, absolument. Mais c'est pas ça que ça veut dire exactement. Mais enfin, c'est intéressant d'amener la Guémara, mais ce que dit la Guémara, c'est un symptôme, c'est pas la définition essentielle.
Un symptôme comme ça ?
Oui, c'est-à-dire le fait qu'elle est interdite aux autres. C'est le symptôme de la sainteté. D'ailleurs, quand quelqu'un était fiancé à la Yeshiva du Merkaz Arab, un des usages allait de recevoir une bénédiction du Rav David HaKohen, le Nazir, Zichrono Livracha. Et le Nazir posait la question à l'élève et disait, tu vas dire Ariat Mekudeshet, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'élève qui avait étudié la Gemara dit, ça veut dire Asura al Kol HaOlam Kehekdesh, c'est-à-dire elle est interdite au reste du monde comme quelque chose de Kadosh. Et le Nazir disait, c'est ce qui se passe avec les élèves de Yeshiva. Ils étudient la Gemara, mais ils n'étudient pas le Zohar. Et dans le Zohar, là-bas, il est dit, Kadosh Iou Echad, ce qui est saint est un. C'est donc Mekudesh Adli, ça veut dire unifié à moi. D'accord ? Mais en tout cas, il y a donc la Gemara, qui est symptomatique, il y a le Zohar, qui est l'intériorité, mais on va rentrer plus dans le détail. D'accord ? Là, nous étudions ni la Gemara, ni le Zohar, nous étudions quelque chose de beaucoup plus fondamental, nous étudions le texte de la Torah. Or, nous voulons savoir ce que dit la Torah, et pour le savoir, nous devons lire la Torah. N'est-ce pas ? Oui.
Euh,
le septième, là, il écrit, il a dit, les Kadesh, le Tima Shemini, il a dit le septième jour.
Oui. Non. Il n'y a, pas le Shabbat ici du tout. Le mot Shabbat n'apparaît pas dans le texte.
Le septième jour, c'est le Shabbat.
Le septième jour, c'est le Shabbat. Moi, j'en sais rien. Tu as des connaissances qui me dépassent. Dans la Torah, il est question du septième jour. Or, le septième jour, pour autant que je sache, est exactement le contraire du Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour où je ne fais rien. Et le septième jour, c'est le jour où je dois faire. C'est le temps de l'histoire, comme on l'a prouvé tout à l'heure. On l'a prouvé dans les autres cours. C'est-à-dire que le Yom HaShevi'i, le septième jour de la création, c'est les 6000 ans d'histoire. Pendant ce temps-là, je dois agir. D'accord ? Et donc, comment ?
Pourquoi l'associer au Shabbat ?
Ah, pourquoi c'est lié au Shabbat ? Tout simplement parce que dans la paracha de Yitro, quand Kadosh Baruch Hu dit de faire le Shabbat, il dit vous allez faire le Shabbat comme moi. De même que moi j'ai cessé le travail, mon travail le septième jour, vous allez une fois par semaine arrêter. C'est-à-dire c'est faire la ressemblance avec Kadosh Baruch Hu. Mais disons que pendant le jour du Shabbat, je fais le contraire de mon travail. Mon travail, c'est de transformer le monde, et le septième jour, je glande. C'est-à-dire que le septième jour de la semaine, je me comporte comme si j'étais déjà arrivé au huitième. Donc le Shabbat, c'est le jour de la semaine qui ressemble au huitième jour et que je fais une fois tous les sept jours. Vous avez compris ? D'accord ? C'est une projection du huitième jour. C'est le télé huit jours. Oui ? Rien à voir avec la revue. Oui, tu disais ?
Et les autres créatures finies, achevées...
Donc elles ont fini leur boulot, déjà, depuis longtemps.
Elles sont déjà dans le huitième jour ?
Non, elles sont dans le sixième. Les autres créatures sont dans le sixième jour. Et pendant le septième jour, elles n'ont rien à faire. À moins d'avoir de mériter leur élévation à travers l'homme. Mais ça, il faudra voir ce que ça veut dire exactement le terme kadosh. Nous en sommes encore en train de chercher ce que ça veut dire. Comme il y a beaucoup de propositions qui sont faites, parce que les gens ont des connaissances énormes, donc ça m'empêche pour l'instant d'arriver à mon sujet. Mais je n'ai pas perdu l'espoir d'expliquer ce que je veux dire. Donc, Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto, Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, c'est-à-dire qu'il lui a donné un but. Le but étant la sainteté. Mais non, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire la sainteté. Je sais en tout cas ce que ça ne veut pas dire. La sainteté n'est pas équivalente à la moralité. Moralité, en hébreu, se dit derech eretz, le comportement de la terre, le chemin de la terre. Or ça, c'est quelque chose qui est presque naturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la morale naturelle. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut respecter ses parents, il faut respecter les autres, s'occuper des nécessiteux. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la moralité, et ça on l'attend de l'ensemble des hommes, on pourrait dire sans Torah. Et il y a une grande règle qui est Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est-à-dire la morale naturelle est quelque chose qui est préalable à la Torah. C'est-à-dire on ne peut pas commencer la Torah si on n'a pas d'abord, si on s'est pas d'abord acquitté du Derech Eretz. D'où le danger. Par exemple, quelqu'un qui entreprend d'étudier la Torah, ou qui entreprend d'accomplir les mitzvot, mais ne s'est pas acquitté de la morale naturelle. Catastrophe. D'accord ? Donc il faut d'abord commencer par le Deret, après on a la Torah. Dans la Torah, il y a une instruction qui nous parle de la Kedusha, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais, avant de savoir ce que ça veut dire, peut-être que j'arriverai aujourd'hui à savoir ce que ça veut dire, il y a quelque chose de très clair. Si le septième jour, c'est le jour de la Kedusha, ça veut dire que viendra un temps dans l'histoire où sera écrit le verset Vayihiyu Kedoshim Vayar Elohim Kitov. Ils furent saints, et Elohim vit que c'était bien. Vayihare Vayiboker Yom HaShevi'i, il fut soir, il fut matin, septième jour, et alors commencera le huitième jour. D'accord ? Et nous sommes encore dans le septième jour. Nous avons un but d'arriver à la Kedusha. Une fois que nous serons arrivés à la Kedusha, nous pourrons entamer le huitième jour. C'est bien clair ? Quoi ?
Donc pour se compléter, l'homme doit arriver à la Kedusha,
c'est ça ? Exactement. D'accord ?
Voilà. Et la Kedusha, c'est quoi ? C'est faire tout le monde ?
Je ne sais pas encore.
Ah.
Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je crois avoir insisté assez là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un projet qu'on appelle la Kedusha, dont la définition m'échappe pour l'instant, et qui, une fois achevé, elle nous amènera au huitième jour. Jusque-là, vous me suivez ? Maintenant, j'ai un petit problème avec ce que je vous ai dit là. Je vais vous amener un verset du Lévitique de Vaïkra qui met par terre tout ce que l'on a dit jusqu'à présent. C'est dans Vaïkra, chapitre 7, verset Aleph. Chapitre 9, verset 1. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Vayikra, chapitre 9, verset 1 ? Vayehi bayom hashemini. Et ce fut le huitième jour. Donc, le huitième jour a déjà commencé. Mais le septième jour n'est pas encore fini. Waouh ! Problème. Le huitième jour commence, mais le septième n'est pas fini. Hein ? Embêtant. Il parle des corbanotes, effectivement. Il parle de l'inauguration. Il parle précisément de l'inauguration du tabernacle, c'est-à-dire le premier temple de l'histoire. Comment vous dites un temple en hébreu ? Mikdash. Ça vient de quel verbe ? Kadosh. Effectivement, dans Shemot, au chapitre 25, verset 7, il est dit Ve'asuli Mikdash. Ils me feront un sanctuaire. N'est-ce pas ? Mikdash, sainteté, sanctuaire. Rashi dit, c'est quoi Mikdash ? Bayit Shel Kedusha, une résidence de la Kedusha. Ça veut donc dire que le huitième jour a commencé, mais dans un périmètre déterminé, dans le Mikdash. Ça veut donc dire que le Bet HaMikdash est une anticipation, ou une ambassade, si vous voulez, du huitième jour en plein septième jour. C'est-à-dire, nous vivons dans le septième jour, et au milieu de nous, il y a un périmètre, il y a un lieu dans lequel le huitième jour se fait. C'est-à-dire que si vous voulez savoir de quoi a l'air le huitième jour, c'est très simple. Il faut rentrer dans le Beth Amikdash et vous êtes dans le huitième jour. Vous sortez du Beth Amikdash, vous revenez au septième.
On a régressé alors quand le Beth Amikdash a été détruit.
Disons comme ça, on est resté à l'état naturel. C'est-à-dire, si je prends ça au sérieux, ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est un lieu où la Kedusha est possible. C'est-à-dire, cette relation existe, mais c'est un corps étranger. Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un corps étranger dans un système ?
Il est rejeté.
Ce qui vous explique pourquoi le Beth Amikdash, de temps en temps, est détruit. Il est détruit parce qu'il est inadéquat à notre monde. C'est-à-dire, notre monde rejette le huitième jour. On est en plein septième. Comment ? Le huitième se mêle de nos affaires. D'accord ? Oui, mais on n'y est pas, nous, encore dans la Kedusha. Il faut finir le septième, alors on pourra rentrer dans le huitième.
Une tentative, elle n'a pas marché.
Elle ne marche pas. Mais alors pourquoi les faire dans ce cas-là ? Pourquoi faire ces tentatives de Beth Amikdash si à chaque fois il est détruit ?
Ça nous donne envie de...
Ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. Il y avait, une seconde, il y avait en Europe, il y a un peu plus de deux siècles, dans un des pays barbares d'Europe, il y a eu une révolution. Dans cette révolution, qu'on appelait la révolution universelle, il y avait là-bas une représentation du peuple qu'on appelait l'Assemblée nationale. Et dans l'Assemblée nationale, il y a eu une loi. Une loi comme quoi Dieu existe. C'est-à-dire que Dieu est sorti de l'illégalité, il est devenu légal. Et ils ont appelé ça la religion de l'être suprême. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire Dieu. Dieu, c'était trop chrétien. Alors ils ont fait le culte de l'être suprême. C'est un certain Robespierre, Maximilien Robespierre, qui a fait passer cette loi à l'Assemblée nationale. Et donc Dieu était légal. Et ils ont dit... En fondant cette loi, il y avait différents paragraphes. Les attributs de l'être suprême sont la vérité et la vertu. Et son temple, c'est l'univers. C'est-à-dire, son sanctuaire, c'est l'univers. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les conventionnels ? Ils voulaient régler ce problème entre le septième et le huitième jour. Ils voulaient qu'il y ait identité des deux jours. Et donc ils ont été d'une manière, disons, un peu facile. Ils ont dit, ben voilà, on y est déjà. La nature, c'est le sanctuaire. Mais c'est pas idiot. Ça veut dire que c'est ça le projet. Que viendrait un jour où le huitième jour ne serait pas que dans le temple, il serait dans le monde entier. Mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Oui ?
Parce que le Beth Amikdash, mais ça raconte dans l'histoire dans les dernières années, il a quasiment pas existé.
Il a existé pas mal de fois quand même.
Oui, mais c'est une
question. On a à peu près, disons comme ça, 369 ans du Mishkan de Shiloh. Et puis, sans parler des 40 ans du Mishkan dans le désert, 410 du premier temple et 420 du deuxième. Ça fait, disons...
Il n'a pas fait un sixième ?
Non, il a fait un peu plus qu'un sixième. Il a fait quelque chose comme 1000 et quelques ans.
Ah ouais ?
Donc, ça fait quand même pas mal, oui. Oui, tu prends 410 plus 420 plus 369 plus 40...
1200
1239 ans. D'accord, il y avait un peu moins, d'accord. Mais en fait, disons que c'est quand même pas mal. C'est un bon paquet, quand même. Mais c'est, y a des hauts et des bas, comme tu dis. D'accord. Il y a des périodes où le Beth Amikdash était vraiment dans le nec plus ultra, c'était assez court. D'accord. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des petites pointes de sainteté qui sont arrivées dans le monde. Et donc, vous avez le huitième jour dans l'espace, c'est le Beth Amikdash. Vous avez le huitième jour dans le temps, c'est quoi? C'est le Shabbat. Le Shabbat. Et il y a le huitième jour dans l'être humain, c'est Israël. D'accord? Oui?
Mais donc l'homme doit arriver à la doucha, c'est quoi? C'est toute l'humanité?
Alors, oui. Alors, c'est intéressant. On voit dans le récit du livre de la Torah que des enjeux qui étaient destinés à l'ensemble de l'humanité se sont concentrés en Israël. C'est-à-dire qu'à travers le peuple d'Israël arrive la sainteté au monde. D'accord? Et nous avons donc ici un rôle très important d'amener la sainteté dans le monde. Oui?
Et pourquoi Dieu n'a pas dit au moment de la création qu'il a créé Israël?
Il l'a dit.
Il ne crée pas Israël au moment de la création.
Bien sûr qu'il crée Israël au moment de la création.
C'est écrit.
Bereshit bara Elohim. En faveur de Réchit, Elohim a créé.
Mais c'est tout début, ça veut dire.
Oui, et puis après on voit, il y a l'homme. Israël, c'est l'homme.
Et les autres, c'est des animaux?
Non, pas du tout.
Alors.
Les autres s'appellent Ha-Adam. C'est-à-dire qu'Israël s'appelle Adam et que les autres s'appellent Ha-Adam. Et il y a une raison à cela. Ça veut dire que la vocation d'Israël, c'est d'être l'homme. Ouais. Hein? Non, c'est Adam. Adam comme nom propre, comme je dis Georges, Itzik, Albert, d'accord? Adam, c'est le nom propre d'Israël.
Mais est-ce que c'est les hommes qui doivent s'achever ou c'est Adam qui doit s'achever?
Ah, bonne question, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que dans la Torah, on emploie indifféremment les deux termes, alors donc il faudrait voir plus dans le détail. Oui.
C'est-à-dire que dans le huitième jour,
le monde, c'est comme le Beth Amikdash. Oui. Mais le Beth Amikdash, il a quand même sa place. Il aura disparu. Le Beth Amikdash, dans le huitième jour, c'est le monde entier. Donc la frontière entre le Mikdash et le monde devient de plus en plus ténue. Ça fait tache d'huile.
Donc, il a plus son rôle.
Il a son rôle de centre. D'accord. C'est comme dans un organisme. Il y a la vitalité dans l'ensemble, et puis il y a... Maintenant, donc, revenons à l'histoire de Adam et Adam. Il faudrait rentrer plus en détail. C'est quoi exactement? Le livre de Bereshit est là pour expliquer ça. Maintenant, on en était... Oui, à la Kedusha. Oui, alors, il y a un verset dans le livre de Vayikra qui parle un peu de la Kedusha et qui commence à nous donner un début d'explication. C'est dans le chapitre 19. De Vaïkra. Il est dit comme cela: Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. C'est quoi les morts au fait? C'est le nom de famille de Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? La preuve, c'est que ça vient toujours après son nom et que même son frère Aaron et ses enfants portent le même nom. Donc les morts, c'est probablement le nom de famille de Moshe, Aaron et ses enfants. Donc Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Non, il y a aussi Daber el Aaron vel Banav,
les morts.
C'est ça? Donc, il y a certainement ça aussi. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Daber el kol adad ben Israël va marta elem. Parle à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras: Kedoshim tihu, vous serez saints. Et il y a tout un débat entre nos maîtres. En tout cas, d'après Maïmonide, le mot Kedoshim tihu n'est pas une mitzvah. Vous serez saints n'est pas une mitzvah, c'est un résultat, nous dit Maïmonide. C'est-à-dire, si vous faites tout ce qu'il faut faire, toutes les mitzvot entre autres, alors vous arriverez finalement à la sainteté. C'est la raison pour laquelle quand on fait une mitzvah, on dit « Asher kideshanu b'mitzvotav ». Il nous a sanctifiés par ses commandements. Mais pourquoi est-ce qu'il faut être saint? Alors regardons un peu le texte de la Torah. « Kedoshim tiyu, vous serez saint. »« Ki kadosh ani, car moi je suis saint. » Ah, alors j'ai rien compris. C'est comme si, par exemple, quelqu'un disait « Comme j'ai les yeux bleus, vous aurez les yeux bleus. » Ah bon? Tu as les yeux bleus, c'est très bien, mais on peut avoir les yeux marrons. Hein? Bon. Akadosh Baruch Hu nous dit « Vous serez saints parce que moi, je suis saint. » Bah, logique. En quoi c'est... Essayons de traduire ça de manière la plus simple possible. La manière la plus simple possible. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait « Je suis le seul à être saint. » Alors, soyez saints, comme ça on pourra jouer ensemble. C'est-à-dire, c'est une recherche de rencontre. C'est-à-dire, il se sent un peu seul, pourrait-on dire, le créateur du monde. Alors il dit, ben voilà, il faudrait qu'on puisse s'amuser. Pour qu'on puisse s'amuser, il faut que vous soyez dans un état d'être qui permet une relation directe. Cette relation directe entre le divin et l'humain, c'est ça qu'on appelle la Kedusha. Vous avez donc compris maintenant ? C'est pour ça, par exemple, que dans les Midrashim, on dit que Dieu s'amuse avec les âmes des tzadikim. C'est quoi cet amusement ? L'amusement, c'est ce qui vient quand on n'a plus de besoin. Par exemple, si vous avez faim, vous allez, avec votre copain, manger au restaurant. Une fois que vous n'avez plus faim, mais vous voulez manger encore un peu, vous voulez vous gâter, alors vous amenez, bon, garçon, amenez des gâteaux. Hein ? Bon, d'accord, et amenez les gâteaux, maintenant vous êtes rassasié à bloc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on joue. On joue aux cartes. D'accord ? C'est-à-dire, le jeu vient quand il n'y a plus de besoin. C'est-à-dire, c'est le plaisir d'être ensemble. D'accord ? C'est ça, la Kedusha. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.